Matthew Phipps Shiel. Le nuage pourpre. Au mois de mai de cette année, je reçus d'un de mes amis médecins, le docteur Arthur Lister Brown, un paquet de manuscrits qui, disait-il, ne manquerait pas de m'intéresser. Il s'agissait de 4 gros cahiers remplis de ces signes de sténo aérien dont l'ensemble fait penser à un essaim de moustiques affolés. Le tout était écrit au crayon et sans voyelles, et ce ne fut pas une petite affaire que de les déchiffrer. La lettre qui accompagnait l'envoi était, elle aussi, écrite au crayon et en sténo. C'est elle que je publie ici, en même temps que le cahier numéro 3. Voici la lettre de Brown. Mon vieux camarade, je suis dans mon lit et je pense à vous. J'aimerais que vous soyez là pour me serrer une dernière fois la main avant que je m'en aille. Car je m'en vais. Il y a 4 jours, j'ai ressenti une douleur à la gorge, et comme je passais devant la clinique du vieux Johnson, à Selbridge, je suis entré pour lui demander de m'examiner. Quand il marmonna quelque chose comme « laryngite membraneuse », cela me fit sourire, mais en arrivant chez moi, j'étais si enroué que je ne souriais plus. Dès le soir, j'avais la respiration sifflante et j'étouffais. J'ai alors télégraphié à Morgan, à Londres. Lui et Johnson m'ont ouvert la trachée qu'ils ont brûlée à l'acide chromique et au thermocautère. Mais je suis trop vieux dans le métier pour ne pas savoir de quoi il s'agit. Les bronches sont atteintes, trop loin. J'imagine que Morgan aimerait bien ajouter mon nom à la liste de ses succès en trachéotomie, mais le pronostic a toujours été mon point fort. Et ma seule consolation, en mourant, sera de faire échec à un spécialiste sur son propre terrain. On verra bien. J'ai mis un peu d'ordre dans mes affaires ce matin, et je me suis rappelé ces cahiers. Il y a des mois que je voulais vous les communiquer, mais comme vous le savez, j'ai la fâcheuse habitude de remettre les affaires au lendemain. Et puis, la dame dont je tiens ces documents vivait encore. Elle vient de mourir. Comme vous êtes un homme de lettres, et un homme tout court, je crois qu'ils vous intéresseront si vous parvenez à les déchiffrer. En ce moment, je suis sous l'effet de la morphine, dans un très agréable état de langueur, et comme je suis capable d'écrire, je vais vous parler d'elle. Mary Wilson avait 30 ans quand je l'ai rencontrée, il y a 15 ans de cela. Connaissez-vous quelque chose à l'hypnose? Nos relations furent de cette nature. J'étais l'hypnotiseur et elle mon sujet. Elle était entre les mains d'un autre homme avant de me connaître et elle était affligée d'un tic du 5e nerf. On lui avait arraché la plupart des dents, puis sectionné le nerf du côté gauche par une opération externe, mais rien n'y fit, la mâchoire de cette pauvre femme tressautait comme une cloche. Elle eut de la chance de tomber sur moi. Je m'aperçus que j'avais le pouvoir de contrôler son comportement et, l'ayant un peu suggestionné, je réussis à chasser le diable qui l'habitait. Bref, je n'ai jamais vu une personne plus étonnante que mon amie Miss Wilson. Le guérisseur que je suis ne pouvait la regarder sans éprouver une espèce de choc, tant elle évoquait une créature de ce qu'on appelle l'autre monde. Il émanait d'elle une odeur de tombeau. C'était plus un fantôme qu'une femme. Mais il m'est difficile de rendre cette impression autrement que par des détails aussi secs que les contours de son front hautain, ses lèvres minces, son menton pointu, ses joues terreuses. Elle était d'une maigreur à faire peur, et, sauf les fémurs, on distinguait tout son squelette sous la peau diaphane. Ses yeux étaient d'un bleu pâle comme de la fumée de cigarette ou une solution de quinine fluorescente sous les rayons X. Son regard était étrange, incapable de se fixer nulle part. À 35 ans, ses cheveux étaient tout blancs. Elle vivait dans l'aisance, seule, dans le vieux manoir de Wooding, à 8 km d'Ash Thomas. Moi, je débutais dans le coin à cette époque. Le manoir devint ma résidence, car elle insista pour que je me consacre exclusivement à elle. Je m'aperçus qu'en état de transe, Miss Wilson possédait des pouvoirs remarquables. Ils n'avaient rien d'original en soi, mais on pouvait les tenir pour authentiques et capables de se développer. N'importe quel novice en sciences psychiques peut maintenant discourir sur les pouvoirs de seconde vue que possède l'esprit en état de transe. Il est un fait que la recherche psychique admet, après des investigations sans nombre, qu'il s'agit d'une science. Mais n'importe quel vieux sorcier du Moyen-Âge pouvait en dire autant. Si je prétends que les pouvoirs de Miss Wilson étaient remarquables, c'est qu'en général, ces pouvoirs se manifestaient soit dans l'espace, soit dans le temps, et l'esprit erre dans le présent comme s'il survolait un paysage. Le don de Miss Wilson avait ceci de singulier qui lui permettait de se déplacer dans toutes les directions à la fois avec une aisance incroyable, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas, dans le passé, le présent et le futur. J'ai découvert cela peu à peu. Elle émettait une série de sons, je ne peux pas vraiment dire de paroles, murmurés, gutturaux, entrecoupés de soupirs qui s'échappaient par bouffées de ses lèvres languides, le tout accompagné d'une intense contraction des pupilles, d'absence de réflexe de raideur et d'une expression de ravissement total. Je pris l'habitude de passer de longs moments à son chevet, fasciné, essayant de saisir la signification de ce langage visionnaire qui sortait de sa gorge comme un croassement et faisait frissonner ses lèvres, et au bout de plusieurs années, je réussis à distinguer les mots. Le voile se leva alors pour moi aussi, et je pus suivre les discours de cet esprit rêveur et vagabond. Je l'ai entendu un jour prononcer une phrase que je reconnus. Tels étaient les arts grâce auxquels les Romains étendaient leurs conquêtes et recevaient la palme de la victoire. C'est de Gibbon dans Le déclin et la chute, ouvrage qu'elle n'avait sans doute jamais lu. Je lui demandai d'une voix ferme : Où êtes-vous ? Nous être à 1000 kilomètres au-dessus, un homme écrit, nous lisons. Je dois vous dire deux choses. D'abord qu'en état de transe, elle ne parlait jamais d'elle-même à la première personne du singulier, mais employait toujours, je ne sais pour quelle raison, le pronom « nous » suivi de l'infinitif, bien qu'elle ne manquât pas d'instruction. Ensuite que, lorsqu'elle voyageait dans le passé, elle se représentait toujours comme étant au-dessus, de la terre peut-être, et elle était d'autant plus haut que le temps était plus éloigné. En décrivant les événements du présent, elle se décrivait sûre. Pour le futur, elle déclarait invariablement que « nous être » à tant de kilomètres en dedans d'eux. En ce qui concerne ses voyages dans cette dernière direction cependant, il semblait qu'il y eût des limites précises. Je dis « il semblait » car, en dépit de mes efforts, elle n'alla jamais bien loin dans ce sens. 4, 5, 1000 kilomètres étaient les chiffres qui venaient sur ses lèvres quand elle parlait de distance au-dessus. Dans la distance en dedans d'eux, elle n'allait jamais au-delà de 100. Le plus souvent, elle disait 20, 25, comme si, lors de ses plongées dans le futur, elle se heurtait à une pression de plus en plus forte. Elle ne pouvait franchir un certain point, elle ne pouvait plonger plus avant. J'ai peur de ne pas pouvoir continuer, bien que j'ai beaucoup à raconter sur cette femme. Pendant 15 années, plus ou moins ponctuellement assis à son chevet, je l'ai écoutée jusqu'à ce que mon oreille réussît à saisir le sens de son murmure le plus ténu. J'ai entendu le déclin et la chute du début jusqu'à la fin. Quoique la plupart de ses récits fussent assez banals, j'étais fasciné par certains autres, et j'ai entendu des paroles stupéfiantes sortir des lèvres de Mary Wilson. Souvent, j'arrivais à lui faire répéter certains passages par le seul pouvoir de ma volonté, Mais d'autres fois, elle se dérobait avec une obstination déconcertante. Elle résistait. Elle désobéissait. Sans cela, ce ne sont pas 4 cahiers, mais 20 que je vous aurais envoyés. Au bout de 5 ans, l'idée me vint qu'il serait intéressant de noter ses propos les plus cohérents, et, comme je connais la sténo, je m'y suis mis. Le cahier numéro 3 est de la 11e année. Voici son histoire. Un après-midi, je l'entendis se demander à elle-même dans un murmure, comme si elle disait « Où nous être ?» Et elle répondit « Nous être à 60 kilomètres au-dedans. Nous lire, un autre écrit. » Mais assez parlé de Mary Wilson. Pensons plutôt à Arthur Lister Brown, qui a un tube respiratoire dans la trachée et l'éternité sous son oreiller. La lettre du docteur Brown continue sur des sujets qui ne présentent ici aucun intérêt. Voici ma transcription du cahier numéro 3. Je rappelle simplement au lecteur que les mots forment la matière d'un document qui, selon Miss Wilson, doit être écrit ou motivé dans l'avenir, lequel, autant que le passé, existe en substance dans le présent, quoiqu'invisible, tout comme le passé. Je dois encore ajouter que le titre, la division en paragraphes, etc., ont été établis par moi, pour la commodité de la lecture. Ici commence le cahier numéro 3.